Présenter ce qu'a fait le comité au titre du protocole facultatif. Merci, monsieur, Madame la Présidente, et merci à tous les délégués qui sont venus et qui sont présents cet après-midi. Je vais intervenir sur le point 3 de l'ordre du jour, c'est-à-dire mise à jour ou actualisation sur ce qu'a fait le comité au titre du premier protocole facultatif. Vous savez que c'est l'additif au traité qui reconnaît la compétence du comité à examiner des communications individuelles de la part de personnes qui allèguent d'une atteinte ou violation de leurs droits, d'un de leurs droits ou de plusieurs de leurs droits au titre de la Convention. Je vais traiter de trois thèmes, c'est essentiellement donc les questions institutionnelles, procédurales et substantielles et de fond. Je vais vous faire un aperçu très rapide et à la fin de la présentation, je vous inviterai à poser à l'un d'entre nous, à n'importe quel membre du comité, des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses. Je commence par les questions institutionnelles et je peux commencer par vous donner une idée de la charge de travail du comité pour ce qui concerne les communications individuelles. Il y a toujours une augmentation régulière du nombre d'affaires examinées par le comité. Par exemple, en 2021, nous avions 212 affaires enregistrées comparées à 170 l'année précédente. Ce qui vient donc. Alors, pour ce qui concerne les demandes, c'est quelque chose qui a été filtré par rapport à toutes les plaintes qui arrivent chaque année. D'après le secrétariat, il y en a 3 000 qui sont traitées par le secrétariat chaque année et 7% de ces plaintes arrive devant le comité en dernier ressort. Il est important de noter que les cas enregistrés par le comité représentent plus de la moitié, près de 70% de tous les cas enregistrés par tous les autres comités combinés. Pour vous donner une idée de la disparité dans la charge de travail entre ce comité et les autres, alors qu'en 2021, nous avions 212 affaires inscrites, suivies de près par le comité contre la torture qui en avait 52. Et la même année, le CIDO en avait 11, le SCRPD en avait 9 et le CERD 5. Donc, le Comité des droits de l'homme, pour ce qui concerne les communications individuelles, a beaucoup plus de travail que les autres. Ces 3 dernières années, c'est-à-dire entre 2019 et 2021, le Comité a adopté 422 décisions. Je vous donne un bref aperçu de nos procédures. Au moment de l'enregistrement, le comité, par le truchement de ses rapporteurs spéciaux sur les nouvelles communications et mesures conservatoires, décide si une communication doit être enregistrée ou pas. Et si cela est demandé, si nous devons accepter les demandes de mesures conservatoires. 20 à 30% des communications renvoyées au comité pour une détermination sur l'inscription ou l'enregistrement, comprennent une demande de mesures conservatoires. Ces dernières ont un élément d'urgence qui exige un traitement rapide par le secrétariat et une décision rapide du comité. Une fois que l'affaire est enregistrée, l'échange de vues a lieu et c'est là que l'état partie et l'auteur avancent leurs arguments et contre-arguments. C'est un processus de gestion de l'affaire qui est supervisée par le groupe des requêtes, qui peut également impliquer des demandes conservatoires, par exemple des demandes d'examiner la recevabilité séparément du fonds, de lever les mesures conservatoires, de suspendre l'affaire, d'intervenir, etc. Une fois cette phase terminée, l'affaire est prête pour rédaction. Encore une fois, c'est le groupe des requêtes qui le fait sous la supervision des membres désignés. Le texte, une fois qu'il est terminé, est examiné d'abord par un groupe de travail avant la session et ensuite, à la session qui suit, en plénière, le comité examine, débatte, examine les propositions avant d'adopter son avis final. L'ensemble du processus implique une recherche détaillée de la part de personnel extrêmement formé et très expert du groupe des requêtes et un examen, une discussion par les membres à différents stades. C'est une méthode dont l'objectif est de faciliter l'intégrité du raisonnement, de la fidélité à la jurisprudence et l'équité dans le résultat. Compte tenu du fait que nous avons 18 membres venus de systèmes juridiques différents, ainsi que d'horizons culturels et religieux différents, et qui représentons une variété d'expériences individuelles, les avis, views, bénéficient d'une préparation rigoureuse et approfondie d'un examen avant adoption. Pour ce qui concerne les résultats, à peu près 50% des décisions du comité établissent qu'il y a violation des dispositions du pacte. Les autres 50% incluent la recevabilité, la non-violation ou des décisions donc de classer les affaires. Une fois qu'on établit qu'il y a une violation, une atteinte, le comité identifie les mesures de réparation qui sont de nature personnalisée. Et une fois donc que ces avis sont transmis à l'État membre, commence la phase de mise en œuvre. Malheureusement, le niveau de mise en œuvre des décisions reste assez bas. De plus, le secrétariat n'a pas de ressources spécifiques pour suivre la mise en œuvre des décisions du comité. Toutefois, au titre de la procédure de suivi, le comité vise à suivre et à garantir que les mesures demandées sont appliquées. Actuellement, il y a 1202 affaires qui sont examinées au titre d'une procédure de suivi. En ce qui concerne le type d'affaires que nous examinons, vous serez peut-être intéressé d'apprendre les quatre domaines qui représentent 84% de toutes les décisions que nous prenons. Il y a refoulement et extradition qui représentent 33% de nos affaires. Ensuite, les détentions arbitraires, les tortures, disparitions forcées, peine de mort, exécution extrajudiciaire qui viennent ensuite. 19% portent sur des problèmes de liberté d'expression et de réunion. Et 12% portent sur des questions de devoir de procédure et de procès équitable. Par exemple, récemment, nous avons examiné des affaires relatives au droit à la vie dans le contexte de l'obligation positive qu'avait un État garantissant, par exemple, que les pesticides et produits chimiques utilisés dans le domaine agraire répondent à certaines normes. Portée de l'article de la protection des enfants au titre de l'article 24, avec leur droit à la nationalité, le traitement humain par les autorités nationales. La protection de la liberté de religion qui concerne toute la région, puisqu'aucun système de croyance ne domine partout dans le monde. Et le défi permanent de trouver le bon équilibre entre les droits individuels qui sont protégés par le pacte et l'intérêt public, par exemple la sûreté publique, la santé publique, qu'on a vu éclairer d'une lumière crue dans plusieurs affaires qui concernaient la réponse des États à la pandémie de Covid-19, avec examen des implications qu'ont eu les couvre-feux, les confinements et autres mesures pour les droits de déplacement, la pratique de la religion et même la liberté d'expression. Mais en règle générale, donc, nous avons toujours ce conflit, donc, cette difficulté de trouver donc un équilibre entre l'individuel et ce qui concerne la communauté. Vous devriez voir donc quels sont les types de problèmes que auxquels le donc quels sont les types de problèmes